Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, nous vous proposons aujourd'hui une rediffusion, celle de notre émission du 22 mars 2015, qui était consacrée au livre de Paul Evdokimov, Dostoïevski et le problème du mal, paru en 2014 aux éditions du Courlevour, avec une préface d'Olivier Clément. Nous recevions alors Franck Damour, éditeur de ce livre et co-directeur de la revue Nunc. Ma première question concernait la jeunesse de cet ouvrage qui remonte loin dans le temps.
En fait, il s'agit d'une réédition. Ce livre a déjà connu deux éditions. Il était introuvable depuis peut-être une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. Et comme c'est quand même un des très grands livres sur la question du mal paru au XXe siècle, il nous a semblé important de le rééditer. Nous avions déjà réédité, il y a quelques années, un autre ouvrage de Paul Evdokimov sur Gogol et Dostoïevski. Et c'est vrai que ce sont des ouvrages un petit peu à part dans la bibliographie d'Evdokimov, mais me semble-t-il, là où s'exprime peut-être le mieux son génie propre, dans ce dialogue qu'il a avec ses figures littéraires. C'est sans doute un des creusets, en tout cas, de son écriture, d'où, comme on en parlera peut-être tout à l'heure, sont sortis d'autres ouvrages de lui. Alors, ce livre a été publié en 1942. Paul Evdokimov a 42 ans. C'est en fait sa thèse de philosophie. Et le contexte de ce livre est très important. Evdokimov vit en France depuis 1923. Il a quitté, exilé la Russie en 19. Il a fait un temps à Istanbul. Il a vécu de différents métiers, comme beaucoup de Russes immigrés, travaillant comme ouvrier chez Citroën, travaillant aussi dans des gares à nettoyer des trains. Mais en même temps, de façon parallèle, il a mené des études de philosophie à la Sorbonne et de théologie à l'Institut Saint-Serge, où il a pu rencontrer et être lié à Berdiaev, Bulgakov, qui l'ont profondément marqué. Et après le déclenchement de la guerre, en 1940, il se réfugie à Valence avec sa famille. Et c'est à la faculté d'Aix-en-Provence qu'il va terminer ses études de philosophie, enfin en tout cas la rédaction de sa thèse, qu'il soutiendra en 1942. C'est aussi la même année que la CIMAD installe son antenne à Valence aussi. Ce n'est pas un hasard. La CIMAD, vous savez, c'est cet organisme d'aide aux réfugiés, un mouvement qui a été créé par des grandes figures du protestantisme français, auquel Paul Evdokimov a collaboré, avec lequel il a collaboré, et qui l'a amené donc à participer à des rencontres, aller au-devant des personnes qui sont dans des camps pendant la guerre. Et c'est par le biais de la CIMAD que Paul Evdokimov est devenu résistant. Et donc ce livre, qui est une méditation sur le mal, a été publié en 1942, c'est-à-dire au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale, sans doute peut-être un des moments où les massacres de part et d'autre étaient les plus violents, les plus brutaux, par un homme qui est dans la résistance, résistance spirituelle, d'aide aux réfugiés, qui lui a permis d'aider beaucoup de juifs, notamment à s'évader, partant vers la Suisse, profitant des réseaux protestants et des réseaux de l'œcuménisme. Donc voilà, c'est vraiment un ouvrage tout à fait particulier, singulier, par le contexte de son écriture, même s'il n'y fait aucune allusion. Mais le contexte, nous, on le connaît, et donc il nous a paru important d'aider à sa relecture, redécouverte aujourd'hui.
Justement, trouvez-vous qu'il y a une actualité aujourd'hui qui justifie non seulement, vu la qualité de l'auteur, évidemment, ce qu'on lui doit en général, mais quelque chose de fort aujourd'hui qui justifie cette parution?
Oui, parce que en même temps, la question du mal est rarement posée de façon directe, claire, de nos jours. Ça, je trouve ça assez fascinant. Autant dans les années 70, même les années 80, on trouve de nombreux ouvrages de philosophie ou de théologie sur la question. Elle est rarement abordée de façon frontale. On l'aborde à travers la question des origines, je sais pas, sociologiques, par exemple, pour expliquer tel ou tel comportement, que ce soit le terrorisme, par exemple. Mais de façon directe, non. Pourtant, il y a une présence évidente du mal. Évidente, de mal dans l'histoire. Et c'était la question que se posait Paul Evdokimov, c'est-à-dire si ce monde, le monde de l'histoire, doit être une théophanie, comment expliquer la présence du mal dans cette histoire? Et le mal est qui est aussi présent, et c'est ce qui fait sans doute l'intérêt de ce livre et aussi de l'utilisation de Dostoïevski, qui peut prendre une autre figure, une figure peut-être moins brutale, moins violente que celle des guerres, que celle du terrorisme, mais qui peut prendre aussi la figure de l'indifférence, de la banalité, de la défiguration de l'humain dans des sociétés fortement marquées par le nihilisme. Donc oui, c'est un livre d'une grande actualité, ne serait-ce que parce qu'il prend ce sujet à bras-le-corps.
Une minute aussi pour parler de cette préface que vous appelez lecture d'Olivier Clément au début du livre. Je rappelle que vous connaissez très bien les écrits d'Olivier Clément et que vous êtes à l'origine de plusieurs parutions, reparutions. Donc vous connaissez bien sa pensée. En lisant un peu cette préface, il dit quelque part « Ainsi le mal apparaît comme le désir de Dieu, détaché de Dieu et ravageant l'être créé d'une exigence d'absolu à laquelle celui-ci ne saurait répondre. » C'est une sorte de petit résumé qu'il fait de sa lecture de Dostoïevski. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a un rapport entre les deux pensées? Est-ce que Clément, en tant que lecteur de Dostoïevski, apporte quelque chose au lecteur d'aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Parce que ce livre de Paul Avdokhinov n'est pas un livre très facile à lire. Il n'est pas construit, vous savez, de façon très didactique. Parce que c'est sans doute un des interprètes de Dostoïevski qui a peut-être été le plus honnête avec Dostoïevski. C'est-à-dire que finalement, ce livre ressemble à une sorte de roman, un peu, une aventure. On peut y mener, une expérience du mal. Et donc, le lire est un petit peu une forme d'épreuve. Puisqu'il nous amène aussi à entrer en nous-mêmes. Et véritablement, c'est un livre d'études littéraires, si on veut, mais au sens propre du terme. C'est-à-dire au sens où l'écrivain est celui qui se ferait un serviteur du verbe. Et donc, du coup, en empruntant ses pas, on peut véritablement vivre une expérience spirituelle. Ce n'est pas une construction rationnelle que propose Paul Avdokhinov, et ce que souligne très bien Olivier Clément, mais on va dire une expérience. Et c'est ce que Paul Avdokhinov disait lui-même des livres de Dostoïevski. Donc en cela, il y a des liens. Et puis il y a des liens aussi entre Olivier Clément et Paul Avdokhinov. Paul Avdokhinov fut un des maîtres d'Olivier Clément. C'est sans doute avec Vladimir Lossky celui qu'il a le plus accueilli dans cette famille orthodoxe qu'il a découverte, et l'orthodoxie à laquelle il s'est converti dans les années 50. Et donc voilà, il y a une filiation véritablement entre les deux. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité garder cette préface, ne serait-ce que parce que la grande édition posthume de ce livre a été réalisé par Olivier Clément chez DDB, chez Des Clés de Brouwer, dans la fameuse collection noire, où d'autres livres de Paul Avdokhinov avaient été édités, notamment ce grand ouvrage qui s'intitule L'Orthodoxie. Et ensuite, parce qu'il donne des clés aux lecteurs d'aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'on peut difficilement se contenter de lire le livre sans revenir de temps en temps sur la préface pour essayer un petit peu de voir si on n'a pas trop perdu pied.
Merci. Donc, je reviens à la lecture d'Evdokimov, donc, lecture de Dostoïevski par Evdokimov. C'est une approche orthodoxe de Dostoïevski. En quoi diffère-t-elle des autres approches? Dostoïevski est quand même un auteur sur lequel on travaillait.
Alors, je dirais d'abord, il y a véritablement, je pense, une certaine honnêteté qui se retrouve même dans le style de Paul Evdokimov. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à enfermer Dostoïevski dans un schéma. Alors, parfois, ça a pu donner lieu à des interprétations, des lectures très intéressantes. Je pense à celle de Mikhail Bakhtin sur les romans de Dostoïevski et le rapport avec le carnaval. Mais c'est très souvent assez unilatéral. Ici, Avdokhinov, je dirais qu'il lit Dostoïevski à la bonne hauteur, à la juste hauteur. Il le lit pas simplement comme un immense romancier, ni comme un psychologue passionnant, parce que c'est ce qu'il est, mais avant tout comme un pneumatologue. Je voudrais lire juste un passage, si vous le permettez, où je dirais Paul Avdokhinov explicite le mieux ce qu'il entend. Donc, je le lis. En analysant le monde intérieur de l'homme, Dostoïevski dépasse les cadres de la psychologie. Il cite Dostoïevski ensuite. « On m'appelle un psychologue, mais ce n'est pas vrai. Je suis un réaliste au plus haut sens du mot, c'est-à-dire que je montre les profondeurs de l'âme humaine. » Le réalisme, chez Dostoïevski, a une signification toute particulière. Il découvre dans l'âme humaine l'élément fondamental de la personnalité, lié à l'image de Dieu, au monde des anges et des démons, et qui est hors du champ de l'expérience psychologique. C'est en ce sens qu'il n'est pas un psychologue, mais un pneumatologue. Véritablement, Dostoïevski est quelqu'un qui essaye de raconter l'homme en tant que l'homme est enfant de Dieu. Et lire Dostoïevski de cette façon, c'est certainement la façon la plus juste et la plus honnête pour rendre hommage, je dirais, à cet immense écrivain, qui est un écrivain, mais qui est aussi un père pour notre modernité, d'une certaine façon. Un père de l'Église pour notre modernité, j'entends, d'une certaine façon. Alors certes, un peu paradoxal, un peu parfois troublant, Parce que Dostoïevski ne présente pas l'homme en faisant l'impasse sur toutes ses contradictions, sous sa dimension tragique. Chaque roman de Dostoïevski est une tragédie. Hein. Et donc, c'est vrai que nous avons affaire à des personnages qui sont extrêmes. D'ailleurs, le réalisme, hein, Dostoïevski, quand il dit qu'il est réaliste, il le dit à propos des personnages les plus extravagants de ses romans, les plus fous, les plus extrêmes, ceux qui peuvent sombrer dans des extases incroyables, les rêves, la drogue, l'expérience de la drogue, tout cela abonde. Et c'est dans ce creuset-là, de cette humanité-là, dans cette tragédie-là, que une parole plutôt, sur l'homme enfant de Dieu, peut surgir.
Nous sommes en temps de carême, et il est bon de lire ce livre aussi dans cette lumière, dans cette perspective. Et vous avez dit aussi qu'il pouvait être considéré comme un père moderne, enfin Dostoïevski, sa manière d'approcher hein, pour certaines choses. Évidemment, on sort du cadre de la théologie pure, mais il y a de cela dedans. Alors, il y a un problème qui est fondamental et une réponse par Dostoïevski, celui du nihilisme. Hein. Bon. Et profondément intéressant, en particulier en ce temps de carême d'ailleurs.
Oui. Alors, c'est vrai que, pour citer Berdiaev, Dostoïevski a su tout ce que Nietzsche a su, mais avec quelque chose en plus. Et au fond, tout le livre de Paul Evdokimo concerne ce quelque chose que Dostoïevski a su de plus que Nietzsche, qui est sans doute un des occidentaux qui a été le plus lucide sur la modernité et son nihilisme. Ce qui veut dire deux choses. Premièrement, que toute la dimension tragique et le nihilisme n'est pas gommé, évacué très rapidement. Au contraire, il y a une véritable traversée de ce nihilisme, sous toutes ses formes. Qu'est-ce que le mal dont parle Dostoïevski ? C'est un mal qui est à la fois doute, négation, qui est aussi pas simplement une privation du bien, mais qui a une dynamique véritablement très forte, une forme d'intelligence. Et en cela, Paul Evdokimov montre bien que Dostoïevski a retrouvé une définition vraiment évangélique du mal. Il y a une expression que, pour ma part, je n'avais jamais trouvé ailleurs. Evdokimov donne comme titre, à un moment, il parle d'une satanodyssée. Vous savez, un terme forgé sur la théodicée, qui est, au fond, une justification de Dieu, malgré l'existence du mal. Hein, des théodicées, nous en avons eu au cours des siècles des Lumières, et encore au XIXe siècle, où on essayait de justifier rationnellement. Et en général, ça donnait lieu à deux types d'explications que Dostoïevski écarte, l'une et l'autre. Une explication plutôt moniste, c'est-à-dire qui veut que finalement le mal fait partie du grand plan de Dieu et que c'est simplement un manque d'intelligence qui fait qu'on ne voit pas que c'est du bien en fait, hein, voilà, et que donc du coup le mal est une simple altération de l'être. Et puis l'autre explication dualiste, elle, qui dit qu'au fond il y a deux principes, un principe du bien et du mal qui s'affrontent et qui, l'une et l'autre, aux yeux de ceux-ci et de Paul Evdokimov, sont évidemment insatisfaisantes parce qu'elles ne disent pas ce lien très fort qu'il y a entre l'expérience de la liberté et l'expérience du mal. Et il y a là, alors, une forme de mystère, si l'on veut, hein, mais à laquelle on ne peut pas échapper. C'est pour cela que ce livre ne peut pas être une construction rationnelle avec une démonstration de A à Z, dont on sortirait avec une réponse nette et affirmée. Il s'agit vraiment d'une expérience. Et donc, on revient constamment, Paul Evdokimov nous fait revenir constamment sur cette dialectique, cette tension, hein, qui est que le mal fait partie de la liberté. Alors, l'homme il n'y avait pas d'obligation pour l'homme de l'expérimenter, et il est peut-être possible de s'en sortir, hein, certainement, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas évacuer complètement. Ce qui est très intéressant, c'est de retrouver le mal comme force, pas une simple privation du bien ou de l'être, mais il y a une forme d'intelligence du mal, et je crois que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est très parlante. Il se trouve que dans la culture populaire, c'est souvent quelque chose qui est mis en avant. Il y a beaucoup de films ou de romans policiers ou autres, qui mettent l'accent justement comme cela sur une présence du diable, une forme de personnalisation dédoublée du mal. Je trouve assez dommage que ce soit pas plus pris au sérieux. Il y a quelque chose qu'on peut véritablement retrouver ici, parce que sinon, ça reste juste un discours qui, au final, finit par justifier. Alors que le mal, est, même s'il est présent, bien sûr, est quelque chose qui doit rester injustifiable si on veut pouvoir l'affronter.
Franck Damour, je rappelle que nous parlons de ce livre de Paul Evdokimov, Dostoïevski, Le problème du mal. Donc, Evdokimov, lecteur de Dostoïevski, et vous, lecteur d'Evdokimov. Il y a tout de même des preuves de Dieu chez Paul Evdokimov, hein, dans l'œuvre de Dostoïevski. Quelles sont-elles et comment les place-t-il dans l'ensemble du travail de Dostoïevski?
Oui, alors, les preuves de Dieu se manifesteront pas en dehors de l'affrontement avec le mal. L'expression de Dostoïevski, ma foi est née, mon hosanna est née au creuset du doute. Et au fond, voilà, il faut véritablement affronter, faire cette traversée-là pour voir surgir ce que Paul Evdokimov, après, a développé dans ses ouvrages ultérieurs, avec deux preuves qui sont en même temps pas du tout des preuves rationnelles, qui sont de véritables preuves, je dirais, des épreuves, c'est-à-dire des expériences, c'est-à-dire à la fois l'expérience du visage et surtout l'expérience de l'amour. Voilà. Alors, le visage, c'est le visage des saints d'abord. Et c'est vrai que les romans de Dostoïevski nous proposent de hautes et de belles figures de sainteté, hein, qu'il s'agit du Staré Sossime, par exemple, ou d'Alyosha, dans les frères Karamazov, qui ne font rien, apparemment, mais qui constituent par leur vie même, leur présence même, de véritables béances dans le monde, au sein desquelles, je dirais, paradoxalement, ben, le mal est vaincu. Et puis, l'autre épreuve, c'est celle de l'amour. Dieu est nécessaire, finalement, parce que c'est le seul être qu'on ne peut jamais cesser d'aimer, qu'on peut aimer éternellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très profond à méditer, que personnellement j'ai découvert en lisant Paul Evdokimov, j'avais jamais formulé de cette façon en tout cas. Voilà, une sorte de nécessité de l'existence de Dieu, sinon finalement à quoi bon aimer qui existe ne serait-ce que pour justifier l'existence de l'amour. Une expression de Paul Evdokimov que je trouve très belle, c'est que l'amour exige Dieu, la joie exige la résurrection. Et donc, véritablement, là, nous sommes face à un christianisme de résurrection, hein, dont sans doute la figure d'Alyosha est la plus frappante. Hein. Alyosha qui dialogue avec Ivan, des trois frères Karamazov, est celui qui incarne le nihilisme, et celui qui incarne un athéisme de révolte. Hein. Il y a une expression fameuse où il dit qu'il rend son ticket d'entrée au paradis à cause de la mort d'un enfant. Voilà. Si un seul enfant meurt sur Terre, finalement, il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter le paradis, il ne peut pas accepter tous les discours de justification du mal qui, souvent, ont perverti, d'ailleurs, l'annonce du christianisme. Et Alyosha réplique à son frère, mais finalement, ton exigence même, dans ton doute, témoigne que le seul Dieu qui nous sauve, c'est le Christ de la kénose, véritablement. Et d'ailleurs, la figure d'Alyosha incarne à la fois ce témoignage du Dieu amour et à la fois cette figure de sainteté, c'est-à-dire d'une présence qui va rayonner et qui va attester de l'existence de Dieu à travers son visage lui-même. C'est pas un hasard si le livre qui suit juste celui-ci, Dostoïevski, Le problème du mal, l'autre ouvrage écrit par Paul Evdokimov s'appelle Sacrement de l'amour. Un ouvrage fameux sur le sacrement de mariage, hein, qui est publié en 1944. Son épouse est déjà gravement malade, elle décédera un an plus tard, ou quelques mois plus tard, en 1945. Et c'est aussi un moment où Paul Evdokimov choisit de continuer de s'engager dans le cadre de la CIMAD que j'évoquais tout à l'heure, travaillant dans les années d'après-guerre dans des foyers qui s'occupent d'accueillir des réfugiés de tout horizon dans la région parisienne. Et véritablement, voilà, je trouve que là, on a une véritable, je parlais non pas de preuve, mais d'épreuve. Une épreuve de l'amour qui justifie Dieu. Cette épreuve, on peut la découvrir en lisant, grâce à Evdokimov, les romans de Dostoïevski, en lisant ce qu'Evdokimov écrit lui-même, mais en pensant aussi à l'homme qu'il fut. Il y a une véritable unité très profonde, ce qui fait qu'on est finalement au-delà de la littérature au sens technique du terme, comme au-delà de la théologie au sens technique du terme. Nous sommes véritablement dans la vie, tout simplement.
Pour terminer, est-ce qu'on peut dire que de cette lecture, de cette relecture, si vous voulez, de Dostoïevski par Evdokimov, il faut, comment dire, finir sur quelque chose de pessimiste, sur une présence du mal qu'on ne peut pas franchir, hein, qu'on ne peut pas dépasser?
Non, au contraire. Parce qu'il y a, Paul Evdokimov a retrouvé une intuition très forte, hein, des pères de l'Église sur l'unité de tous les hommes. L'unité dans la culpabilité, hein, ce que Dostoïevski appelait l'omniculpabilité, hein, mais aussi l'unité dans le salut. Et véritablement, là, il y a un sursaut, une ouverture. Je voudrais terminer en évoquant justement, si vous me permettez, on laissera la dernière parole à Paul Evdokimov sur ce message-là. Il parle justement de cet homme écrasé par le mal, épuisé par la lutte, qui découvre dans ce creuset-là la figure du Christ, du Dieu de la kénose. De nouveau, la foi s'identifie avec l'amour. L'amour que Dieu a pour l'homme, c'est sa foi, sa confiance en la dignité de sa créature, sa fidélité à l'image de l'homme qu'il porte en lui. À bout de force, Missia retrouvera sa formule « J'existe ». Dans la souffrance, je trouve mon Dieu, donc je suis. Et Evdokimov prolonge cela en disant que Dostoïevski n'a rien écrit d'autre qu'un long commentaire de cette formule, qui est sans doute la formule anthropologique de base, « J'aime, donc je suis ».
Et c'est avec ce texte de Paul Evdokimov que nous terminions cette émission consacrée à Dostoïevski, Le problème du mal, un livre de ce grand penseur orthodoxe du XXe siècle. Franck Damour, merci. Je rappelle que vous êtes l'éditeur de cet ouvrage chez Corlevour. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud, Charlotte Roux. Prise de son, Michel Mestre, Jean-Louis Deloncle. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Je vous laisse maintenant en compagnie de Michel Schaeffer pour le service protestant.